Économie. Sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Et si nous réformions le deuxième pilier, je vous le pose comme ça, c'est un des objets de vote. Fin septembre, on continue de s'y intéresser avec Simone de Montmolin, vous qui êtes membre du comité des femmes pour la réforme de la LPP. Vous êtes également, je dirais presque surtout dans le cadre de cette émission, conseillère nationale PLR. Vous êtes également œnologue. À vos côtés, Nathalie Hardin, directrice du département politique de la CCIG. On a parlé des personnes à qui s'adresserait cette réforme, mais à qui est-ce qu'elle ne s'adresserait pas, puisque dès qu'on touche à la LPP, évidemment que c'est important de préciser les choses. Nathalie Hardin, peut-être.
Alors, elle ne s'adresse pas aux personnes qui sont actuellement à la retraite. Pour ces personnes, ça ne va rien changer. Donc, il ne faut pas que les retraités s'inquiètent. Ils peuvent tout à fait voter oui à ce projet, parce qu'il va effectivement favoriser les femmes qui sont à temps partiel. Et je pense que... Alors, vous avez dit, on parle de ceux qui ne sont pas concernés. Simone de Montmolin pourra compléter. Mais est-ce que j'aimerais parler des travailleurs qui sont âgés, qui sont plus de 50 ans, qui sont actuellement en poste ou qui cherchent un autre travail. On sait que ces personnes ont plus de difficultés que les jeunes à trouver du travail parce que certaines entreprises, et c'est une réalité, trouvent qu'ils coûtent plus cher en cotisation, puisque vous avez dit tout à l'heure, il a été dit tout à l'heure que l'employeur aussi cotise.
Au moins à hauteur de ce que cotise
l'employé. Et donc, souvent vous entendez dire, ah non, mais il a plus de 50 ans, elle a plus de 45 ans ou plus de 55, elle va me coûter trop cher en deuxième pilier, donc je ne la prends pas, je préfère engager une jeune. Et cette réforme va permettre d'abaisser les cotisations pour ce qu'on appelle les seniors. Et donc ça va être forcément un plus pour ces personnes qui, je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez 50 ans que vous êtes obligé de rester dans le même job jusqu'à 65 ans.
J'espère que non. Simone de Montmolin.
Bien sûr, c'est un des socles de cette réforme, c'est de modifier le taux de cotisation. Et à partir de 35 ans, eh bien, il est le même. Et donc, on n'a plus cette différence et cette discrépance entre les 50 plus et qui prétéritaient leur chance sur le marché du travail. Et c'est d'autant plus vrai pour les femmes, parce que dans cette catégorie d'âge, eh bien, les taux de chômage sont toujours plus élevés chez les femmes que chez les hommes. Et donc, là aussi, c'est une mesure qui favorise les femmes en général. Donc, cette réforme, elle ne favorise pas uniquement les bas salaires, les emplois multiples, les temps partiels, mais également les 50+, et également est une assurance pour, en cas d'invalidité ou de décès, ça il faut aussi se souvenir, hein, la LPP, elle a cette propriété également, et donc plus les gens peuvent cotiser, plus leurs proches sont aussi protégés contre ces risques d'invalidité et de décès.
Est-ce qu'il y aura un changement sur le montant de la cotisation LPP de l'employé ?
L'employé va continuer à payer selon les taux nouveaux qui seront en vigueur. Et donc, il y a cette répartition employé-employeur. Les taux sont un petit peu augmentés jusqu'à 35 ans, à 9%, alors qu'ils étaient à 7%. Et puis, ils diminuent à partir de 35 ans, alors qu'ils étaient, je crois, à
18%. Jusqu'à 18%.
Et bien maintenant, c'est diminué à 14% environ. Donc ça, c'est une amélioration qui est substantielle quand on souhaite donner les meilleures chances à toutes ces catégories de travailleurs pour qui aujourd'hui la situation est compliquée.
Et on en revient à ce que l'on disait au début, à savoir on est peu éduqué là-dessus, parce que sans vous dire évidemment de voter oui ou voter non, mais on parle de 7 ou 9%. Je vais prendre l'exemple de Noah qui réalise cette émission. Alors Noah, t'es pas à l'image, donc je vais te demander de me faire un pouce en l'air, un pouce en bas. Si je te dis, tiens, il y a une différence, 7%, 9%, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te fait la même chose? Ou est-ce que tu as envie de participer à cette différence activement? Voilà, c'est ça. Parce qu'on en revient encore à ça, c'est une notion d'éducation. Après, on peut être où on veut sur l'échiquier du vote, mais cette notion d'éducation, je sors un peu du thème, mais est-ce qu'elle ne manque pas aujourd'hui?
Alors, vous avez entièrement raison. Lorsqu'on a l'âge de notre majorité, on reçoit généralement une déclaration d'impôt qu'on nous demande de remplir tout à fait cessante. On ne reçoit que rarement des éléments qui touchent à la prévoyance. De temps en temps, selon les cantons, une information sur l'AVS, mais évidemment pas sur le deuxième pilier, puisqu'on n'est pas encore dans le milieu du travail, et encore moins sur le troisième pilier. Et ça, je pense que c'est une grosse lacune. Je crois que très rapidement, au même titre qu'on fait des projets dans la vie pour d'autres choses, on doit pouvoir se rendre compte que tout ce que l'on fait dans une vie professionnelle a une conséquence sur notre retraite. Et ce qu'on veut corriger avec cette réforme de la LPP, c'est précisément toutes les faiblesses et les défauts qui créent ces inégalités pour des personnes qui n'ont pas des emplois réguliers, qui ont des petits salaires, qui ont des emplois multiples. En général, les femmes qui ont dû renoncer à une vie professionnelle partiellement pendant un temps et qui, à la fin, tout d'un coup, se retrouvent à 50 ans et se disent « Bon, bah, qu'est-ce que j'ai maintenant pour ma retraite ?» Et c'est trop tard pour pouvoir corriger. Donc, si on avait un outil qui permettait de suivre de manière beaucoup plus simplifiée et concrète ce que la prévoyance demande au cours d'une vie et ce qu'elle apporte, eh bien, je pense qu'effectivement, on aurait une plus grande taux de participation aussi de la population sur ce sujet.
Et d'un mot, parce que les opposants à cette réforme disent « les femmes passeront à la caisse sans garantie de rente plus élevée ».
Mais ça, c'est de nouveau des figments d'imagination. Aujourd'hui, et je crois que ça a été vraiment démontré, il y a une étude BSS qui a démontré que, je peux vous donner les chiffres par cœur, donc je ne les ai pas par cœur, mais ils sont là, 359 000 personnes qui auront une amélioration de rente, parmi ceux-ci, 275 000 femmes, c'est 77%, et 84 000 hommes qui ont aujourd'hui des revenus faibles et qui vont bénéficier de cette réforme. 100 000 personnes pourront accéder à l'assurance deuxième pilier, qui aujourd'hui ils n'ont pas un seuil d'accès suffisant, donc un salaire suffisant pour pouvoir cotiser. C'est 100 000 personnes qui pourront assurer une retraite quand même plus confortable. Et puis, ça veut dire des améliorations, une prévention des risques, pour ce dont j'évoquais tout à l'heure, le fait que ces caisses qui sont maintenant obligées de financer des retraites à un taux qui est plus du tout adapté à l'espérance de vie, eh bien, vont se trouver dans une situation extrêmement compliquée où elles vont devoir utiliser les rendements des capitaux existants pour payer les rentiers. Alors que ces rendements de capitaux, c'est précisément ce qui revient à chacun des cotisants et qui forment la base du deuxième pilier. Je rappelle qu'est fondée sur la part de l'employé, la part de l'employeur et la part du marché, donc le rendement du capital. Et ça fait tripler, ad minima tripler, ce que chaque employé, qu'il cotise 7 ou 9%, aura à sa retraite. Donc c'est véritablement un système extrêmement solide qu'on doit préserver.
On fait les calculs pour nous à Rantaine et on se retrouve tout de suite.